Nous te prions maintenant que tu continues, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs et nos intelligences aussi, pour que, en méditant la parole que tu veux nous donner ce matin, nous soyons pleinement disponibles pour que ta parole fasse son œuvre en nous, qu'elle nous transforme, qu'elle nous modèle, qu'elle nous encourage, qu'elle nous reprenne, qu'elle nous remette sur le droit chemin. Bref, Seigneur, tu sais ce dont chaque cœur a besoin et ton esprit fait le travail. Mais nous te prions de nous rendre disponibles pour l'œuvre de ton esprit. Nous te bénissons pour cette parole que tu veux nous transmettre encore une fois ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ce matin, je vous invite à la lecture d'un passage de l'Ancien Testament, avec particulièrement une question en toile de fond. Que fais-tu ici ? Voilà la question qu'un jour ou l'autre nous pouvons entendre prononcer de la part de Dieu. Ce qui importe, c'est de recevoir cette question et de cheminer avec l'Éternel pour y répondre. Et c'est cette histoire d'Élie qui va nous inviter à réfléchir à nos propres égarements. Et peut-être qu'en ce temps d'été, c'est bienvenu de penser parfois à nos égarements. Voilà, je vous invite à la lecture du premier livre des Rois au chapitre 19, les versets 1 à 18. Alors ça se situe juste après, peut-être un des passages les plus connus de l'histoire d'Élie, quand il affronte les prophètes de Baal et que, vous savez, il y a cette histoire d'Holocauste, etc., que chaque dieu doit allumer lui-même son autel et que Élie a l'occasion ainsi de se moquer des prophètes de Baal puisque il se passe rien, évidemment. Alors que l'autel de l'Éternel, copieusement arrosé, s'allume quand même. Donc c'est vraiment le lendemain d'une grande victoire pour Élie et pour le témoignage de l'Éternel. Alors je commence la lecture. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me fassent ceci et qu'ils ajoutent encore cela, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et y laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche, il s'assit sous un genêt, et demanda la mort en disant « C'en est trop. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. » L'Éternel dit « Sors, et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la grotte.
Alors voici qu'une voix lui dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. » L'Éternel lui dit « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction à Hazaël comme roi de Syrie. Tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu donneras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, comme prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu, le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas baisé. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. La parole est la vérité. Seigneur, sanctifie-nous par cette vérité. Alors avant d'entrer dans cette histoire d'Élie, réfléchissons à nos propres causes d'égarement, qui sont variées. Hein. Un jour ou l'autre de notre vie, il nous arrive de nous égarer. Alors peut-être quand on a cédé au monde, goûté à ses joies ou pris part à ses querelles, ça peut être une cause. Parfois on peut être aussi entraîné par un mouvement social ou religieux, se prêter à une alliance répréhensible, ou nous placer sous un joug mal assorti. À l'inverse, devant l'hostilité du monde, ne parlons même pas, suivant les pays, de persécution, nous sommes tentés de renoncer au témoignage du Seigneur, en tout cas de nous faire plus que discrets. Ou bien parfois, en estimant le témoignage collectif sans efficacité, nous jugeons sévèrement nos frères et leurs propres manquements, et nous nous tenons à l'écart. Malheureux peut-être, mais quand même en nous flattant secrètement d'être le seul fidèle. Il n'y a plus que moi. Quelle que soit la cause, ce qui est important à comprendre, c'est que nous ne sommes plus dans ces cas-là où Dieu nous veut. Le cas le plus attristant, ça reste celui de quelqu'un qui va jusqu'à s'absenter volontairement du lieu où le Seigneur Jésus rassemble les siens. Et à cet égard, l'histoire d'Élie, dans ce chapitre 19 du livre des Rois, est d'un enseignement d'autant plus sérieux qu'il s'agit d'un homme de Dieu exceptionnel et entre tous honoré. Mais ne prenons pas cette dernière phrase pour un prétexte, comme prétexte hein, pour ne pas nous sentir visés par ce texte, parce que chacun de nous a reçu un témoignage à rendre et un service à accomplir, de sorte que personne ne peut dire « ça ne me concerne pas ». Alors Élie avait été un modèle de foi agissante dans la dépendance et l'obéissance. Plusieurs fois, Dieu lui a dit « va » et il est allé. « Cache-toi », il s'est caché. « Montre-toi », il est allé se montrer à Akab. Il faisait toujours selon la parole de l'Éternel devant qui il se tenait, en recherchant dans la prière le discernement de la volonté de Dieu et aussi la force pour l'accomplir. Il regardait à Dieu et non pas à lui, et c'est de cette façon qu'il avait rendu le plus éclatant témoignage. Et voici qu'au lendemain de la victoire incroyable quand même, remportée sur les 450 prophètes de Baal au Carmel, au lieu d'attendre les effets de cette victoire, on a l'impression que les armes de la foi lui tombent des mains à la menace brandie par cette femme Jézabel, qui est terrible quand même, mais quand on compare la victoire avec la menace, hein, on se dit, on a la sensation que Élie n'est pas préparé après tant d'années de lutte à un échec de sa mission. Comme si, pour un temps, hein, et ça nous arrive à tous, sa foi personnelle n'est plus à la hauteur du témoignage qu'il rend. Et du coup, une pensée surgit et devient obsédante, « Je suis resté le seul fidèle. » Alors c'est vrai que pendant cette victoire au Carmel, hein, personne n'est sorti des rangs, quand il a crié comme Moïse autrefois, « Si l'Éternel est Dieu, suivez-le », personne n'a bougé. Et on a l'impression que, concernant la foi, Élie n'est plus sur ses gardes, en fait. Il se voit seul et il perd de vue l'Éternel et ses armées. C'est une leçon importante pour chacun de nous, parce que sans les ressources que Dieu met à notre disposition, nous sommes incapables, en étant même un grand homme comme Élie, nous sommes incapables de rencontrer même le plus petit émissaire de Satan, si nous ne comptons pas sur les ressources de Dieu. Et on le voit, les menaces de Jézabel ont un effet surprenant, hein ? Celui qui s'est montré pendant longtemps un témoin fidèle s'enfuit pour sa vie. Pour la première fois de toute l'histoire d'Élie, il se lève et s'en va sans que l'Éternel lui ait dit « va ». Il s'en alla pour sa vie. L'Éternel ne pouvait-il donc plus le cacher, comme il l'a déjà fait ? Ne pouvait-il pas frapper Jézabel ? Élie s'en va où son cœur le mène et on voit bien que cette fuite-là interrompt le cours de sa carrière. Voilà pourquoi c'est un avertissement pour chacun de nous. On a l'impression d'une inconséquence. Il fuit les lieux où il devait servir. Lui qui affrontait une foule pour la persuader de suivre l'Éternel, il s'isole de tout contact humain. Il est seul avec lui-même au désert, il est excédé de sa propre vie pour laquelle pourtant il s'enfuit. Déjà là, c'est pas très conséquent. Hein. Il veut sauver sa vie, en même temps il dit « Prends ma vie, j'en peux plus. Prends mon âme, dit-il. » Le prophète qui avait dit « Éternel, qu'il soit connu aujourd'hui que toi, tu es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur et que c'est par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. » Ce prophète-là arrête le combat, dépose ses fonctions comme s'il lui appartenait d'en décider. Et là aussi, il y a quelque chose à entendre pour nous. Hein ? Est-ce que nous nous appartenons au point de pouvoir décider ce que nous arrêtons ou ce que nous continuons ? Accablé par ce qu'il tient pour un échec final, il le met sur le compte de son insuffisance. Comme si les succès précédents avaient été dus à son excellence d'ailleurs. Hein ? Il dit « c'est assez maintenant ». Il réclame la mort. Et comme souvent dans l'Écriture, hein, quand... Un homme de Dieu signifie sa volonté d'abdiquer et d'échapper à ce qui le ronge. Il se couche et s'endort, en général sous un genêt. Ce grand serviteur avait été élevé si haut dans son action et dans son témoignage qu'une telle chute nous paraît incroyable. Et encore une fois, c'est vraiment important de le prendre pour nous-mêmes. Parce que si même Élie, ça lui arrive, à combien plus forte raison ? Nous-mêmes. Et le motif de cette chute nous est connu, ne serait-ce que par nos propres expériences. C'est le moi, encore et toujours. Élie est là devant lui-même, cette fois-ci, et non devant l'Éternel, comme il l'a été auparavant. Alors il n'est pas question de comparer nos circonstances aux siennes, évidemment, hein, on n'a pas une Jézabel qui menace notre vie. Mais quand même, la plupart du temps, nous misons trop sur nous-mêmes. Nous misons trop sur notre moi. Et quand cette base s'effondre, nous nous découvrons sans aucune force intérieure et notre foi ne tient plus. Et dans ces cas-là, quand on s'appuie trop sur notre moi, il n'est même pas besoin de menaces. Hein. Une simple moquerie suffit à nous abattre parfois. Une futilité à nous séduire, une difficulté à nous troubler. Et nous nous retrouvons en pleine défaite, déçus, aigris, déprimé parfois, doutant des autres et de nous, estimant notre travail sans fruit malgré tous nos efforts. Alors ce qui nous manque dans ces moments-là, c'est le sentiment de la puissance qui s'accomplit dans la faiblesse. Parce que oui, nous sommes faibles, c'est pas nouveau, hein ? Mais Dieu est puissant. Et pour Élie, sous le genêt, l'aide lui vient de l'Éternel tout de suite, parce que les compassions de Dieu ne sont jamais épuisées, pas plus que ses ressources. Un Dieu vient par son ange le nourrir et lui donner à boire. On a l'impression d'ailleurs, en tout cas la première fois, qu'il use de cette compassion de Dieu sans vraiment en profiter, hein ? Un ange le réveille, lève-toi, mange. Tout est prêt. Tout est toujours prêt pour nos besoins. Là aussi, est-ce que nous comprenons ça ? Comprenons-nous que nos besoins, symbolisés ici par l'eau et le pain, ou le gâteau, se trouvent dans la nourriture quotidienne qu'est la parole de Dieu et dans la source d'eau vive qu'est la présence du Christ ? Sommes-nous de ces chrétiens qui traversent le désert du monde sans prendre conscience qu'il leur faut cette eau et ce pain ? Et ça, c'est dangereux, hein ? Élie a commencé à ouvrir les yeux sur ce qui lui manque, mais il lui faut apprendre à se connaître encore davantage. Il était un instrument remarquable de la puissance de l'Éternel, et il va réaliser avec cet épisode qu'en lui-même, ben, il n'est rien. Il n'y a pas de bien en lui-même. Tout vient de Dieu. Il mange, boit, se recouche, maussade, hein, nous dit le texte, et comme indifférent à tout ce qui n'est pas l'oubli de ses peines. Et l'ange vient à lui une seconde fois. Élie va alors se mettre en route. Mais quel chemin suivre ? Là aussi, hein, c'est étonnant, et il ne demande pas son chemin. Pas plus qu'il ne demande, semble-t-il, que l'Éternel soit avec lui durant le trajet. 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Et là, il entre dans la caverne et y passe la nuit. L'Éternel l'avait-il envoyé au Sinaï pour s'y cacher ? En réalité, Élie a poursuivi son propre chemin, le chemin de sa propre volonté. Mais si Élie, tout de suite, cherche son propre chemin, en tout cas, Dieu cherche Élie. Hein ? Dieu cherche Élie alors qu'il ne cherche pas, en tout cas à ce moment-là, à être dirigé par lui. Il le laisse quand même aller, sachant pourtant sa pensée profonde, se démettre hein, de sa mission. Et pour le faire, il va à un lieu quand même très symbolique, hein, le lieu où la loi a été donnée. Il vient faire reconnaître ce qu'il a été, ce qu'il a fait, réclamer les rigueurs de cette loi contre le peuple dont il a la charge, afin qu'il soit jugé, puisqu'ils en veulent à sa vie. Bref, en fait, il cherche à faire agir Dieu en vengeur de son prophète. Et là, nous aussi, souvent, nous avons tendance à prendre ce chemin qui n'est pas quand même vraiment une bonne idée. Combien de fois, hein, nous crions à Dieu en disant « Quand même, regarde ce qu'un tel et un tel me fait. » On ne dit pas « Venge-moi », mais on le pense, hein. Voilà, il s'en réfère à ce Dieu qui a donné la loi et on a l'impression qu'il ne connaît que ça. Alors Dieu ne perd pas de vue son serviteur défaillant puisqu'il l'attend même hein, au terme de ce long chemin. Chemin pour lequel il a pourvu à sa force hein, en lui donnant à manger et à boire. Et nous reconnaissons là la compassion infinie de notre Père qui plus d'une fois, sans cesser de s'occuper de nous, nous a laissé aller notre chemin pour nous ressaisir au moment que sa sagesse et sa bonté avaient déterminé. Il a donné à Élie tout le loisir de méditer et de revenir à lui. Et en fait, pendant ces 40 jours, Élie a remâché son amertume et sa crainte, qu'on comprend évidemment. Il a médité sur lui-même et il va ensuite être trouvé par l'Éternel. Il va apprendre à le connaître autrement. Et c'est à cette lumière nouvelle que lui-même va se connaître aussi. Que fais-tu ici, Élie ? Question qui, un jour ou l'autre, est posée à chacun d'entre nous. Au fond de la caverne, Élie entend la parole de celui à qui il demandait de prendre son âme et qui avait répondu en lui donnant de quoi la faire vivre, d'ailleurs. C'est intéressant, hein ? Que fais-tu ici, Élie ? Est-ce ici que je t'appelais à me servir ? Je brode là, c'est pas écrit. Que vient faire en Horeb le prophète envoyé vers mon peuple pour le ramener ? Et peut-être, là, une certaine part de tristesse vient du fait que Moïse, qui a lui-même été dans cette caverne, hein, y est venu plus d'une fois pour intercéder pour Israël, pour rappeler les promesses de Dieu envers son peuple. Moïse s'est mis en colère aussi contre le peuple, hein. Mais là, Élie n'est pas du tout dans cette vision-là. Il vient pour accuser le peuple, il en a assez. Il vient pour faire requête à Dieu contre Israël et pas pour Israël. Comme si il ne savait pas à quel point cette nation, coupable certes, demeurait chère dans le cœur de Dieu. Et là aussi, il y a une vraie mise en garde pour chacun de nous, à chaque fois que nous accusons nos frères et sœurs, à chaque fois que nous médisons de nos frères et sœurs. Comment pouvons-nous oser accuser nos frères devant celui qui aime les siens d'un amour éternel? Ça, véritablement, c'est faire le travail de Satan, l'accusateur des frères, hein, c'est comme ça qu'il est nommé. Élie, pour un temps, a perdu de vue cette pensée de Dieu pour son peuple. Et le contraste est saisissant, effectivement. Hein. On a d'autres serviteurs comme Moïse, Jérémie ou Amos qui plaident avec Dieu en faveur d'un peuple qui pourtant est chaque fois tombé très bas. Hein. Il ne tombe pas juste à l'histoire d'Élie, hein, ce peuple. Et pourtant, l'intercession de ces serviteurs-là n'est qu'une faible anticipation de celle de Christ, de laquelle nous sommes au bénéfice. La perfection infinie de Christ brille au jour de son rejet, puisque pas un mot de plainte ne franchit ses lèvres. Il pleure en considérant l'endurcissement de ceux qu'il était venu sauver. Et même quand il est accablé d'outrage à la croix, il dit encore « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Voilà l'intercession du serviteur de l'Éternel. Élie, lui, répond simplement, et il va faire deux fois la même réponse, hein, « J'ai beaucoup fait en face de ces indignes fils d'Israël, et je suis resté tout seul. » Voilà. « Ils se sont détournés de toi, il n'y a plus que moi, et ils cherchent ma vie pour me l'ôter. » On entend bien hein, dans cette réponse le « moi hein, »,« moi, ils m'ont fait ça. » Mais l'Éternel sait déjà tout ça. Il sait l'alliance abandonnée, les autels renversés, les prophètes tués. N'était-ce pas lui qui, avant de juger son peuple, l'avait éprouvé par la sécheresse et qui lui avait parlé par Élie? Je vous encourage à relire l'histoire d'Élie, hein, 3 ans sans pluie quand même. N'était-ce pas ce Dieu-là qui avait fait tout ça? Et s'il y avait échec dans cette tentative pour ramener le peuple, parce qu'il y a bien échec quand même, à qui appartenait-il d'en faire le constat et de condamner les vrais responsables? Là aussi, c'est à Dieu, hein. Combien de fois nous outrepassons nos droits? Et même concernant Élie, c'est à l'Éternel de lui retirer son ministère. Pas Élie tout seul d'y renoncer et de s'arrêter. Voilà donc ce que tu viens faire ici. Et on a comme l'impression que Dieu lui dit « Je vais te dire moi ce que tu dois faire et ce que moi je fais. Mais d'abord tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et là aussi, hein, devant l'Éternel, Élie aurait-il oublié ce point capital? Lui qui disait à Akab, l'Éternel devant qui je me tiens. Voilà comment il se présentait. Il semble, là aussi, hein, à côté un petit peu de sa route, lent à obéir, encore dans la caverne, il attend d'être sûr de la présence de Dieu pour sortir. Et ce passage est connu, hein, ce passage avec les tremblements de terre, le feu, le vent. Il perçoit les manifestations successives des puissances destructrices auxquelles rien ne résiste. Le vent qui déchire les montagnes, le tremblement de terre, le feu, mais dans lesquels l'Éternel n'est pas. Et ça, c'est important aussi de le prendre en considération. Parce que Dieu, évidemment, dispose de ses moyens et de bien d'autres pour punir quand il le faut. Et il les utilise quand il le faut. Mais quels que soient les instruments, il n'est pas dans ces choses-là. Ces choses vont devant lui. Parfois, un ou l'autre de ses attributs peuvent s'y laisser percevoir, hein, mais son être même n'y est pas. Sa vraie gloire non plus. Dieu, lui, est dans la voie douce, subtile, prêt à se faire connaître, à se révéler. Et on voit vraiment là la connaissance de Dieu comme un Dieu de grâce. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas aussi le Dieu qui exerce ses jugements quand ils sont nécessaires. Hein. Mais l'être de l'Éternel, c'est cette voix douce et subtile qui veut se révéler
comme le Dieu de grâce. Alors Élie sort et se tient à l'entrée de la caverne, le visage couvert comme Moïse avait caché le sien. On a la sensation qu'il est là au seuil d'un domaine un peu nouveau, ou en tout cas perdu de vue, celui de cette merveilleuse grâce de Dieu. Grâce qui a été manifestée maintenant pour nous par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Élie attend que Dieu parle, et Dieu parle en effet. Là aussi, ne l'oublions pas. Hein. Dieu poursuit l'opération de sa grâce dans le cœur d'Élie d'abord. Il veut vider son cœur des causes de son trouble et de son amertume. Il va de nouveau venir sonder ce cœur avec cette même question, hein, « Que fais-tu ici ?» Ce n'est plus au fond de la caverne cachée, mais au grand jour que l'entretien reprend. Voilà, Élie se tient devant le Dieu de grâce. Dieu qui lui rappelle qu'il aime ce peuple qui est le sien, qu'il aime ce peuple comme il aime son serviteur, et qui peut-être nous rappelle à chacun de nous aussi, hein, est-ce que nous sommes à l'unisson avec ce cœur de Dieu de grâce? Est-ce que nous aimons les autres comme lui les aime? Est-ce que nous aimons l'autre comme Dieu nous aime? Est-ce que nous nous sentons plus dignes que l'autre d'être aimés de Dieu? Élie fait la même réponse, on l'a dit, hein, une réponse qui est une requête, à la fois accusation contre Israël, protestation de sa fidélité à lui, et toujours ce vœu, quoi qu'inexprimé, hein, que Dieu se glorifie en vengeant son serviteur. Et la réponse divine est étonnante peut-être, hein, parce que Dieu va mettre fin d'abord à la mission du prophète, en tant qu'attaché à une restauration d'Israël. Restauration qui sans doute était impossible, hein, à ce moment-là, étant donné l'état moral du peuple et de son roi, encore plus. Mais aussi parce que cette crise de foi, hein, comme on l'appelle parfois, cette crise de foi d'Élie, l'empêche d'aller plus loin. Effectivement, Élie souhaite une œuvre de jugement et elle va avoir lieu, hein, mais elle ne lui sera pas confiée. En revanche, Élie va avoir à investir ceux qui vont y prendre part. Cette fois, Dieu lui dit « Va, une fois de plus, hein, repars par ton chemin pour oindre les instruments de ma colère. » Et puis, il y a ce dernier verset que je ne voulais pas enlever. Dieu qui révèle à Élie qu'il s'est réservé 7000 hommes. Ce n'est pas 2-3 qui sont dans un coin et qu'Élie aurait loupé, hein, 7000 hommes. Tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant Baal et toutes les bouches qui ne l'ont pas embrassé. Il y a en Israël un résidu selon l'élection de la grâce. Voilà ce que Dieu est en train de dire. Élie, tu as ignoré ça, tu ne le savais pas. Tu te crois seul, tu ne l'es pas. Eux ont entendu aussi la voix douce et subtile. Et c'est la gloire et la joie du cœur de Dieu que d'affermir l'assurance de sa grâce dans des cœurs qui lui demeurent fidèles. Et si nous aimons le peuple de Dieu, ce sera aussi notre joie. Alors que la charge d'amener les jugements ou les fléaux devrait nous peser. Voilà les voix de Dieu admirables envers son serviteur découragé. On n'a pas de reproche direct. Il n'est pas en train de dire « Bon, t'es bidon, tu vaux rien, on va s'arrêter là, toi et moi. » Non, ce n'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, Élie sera ensuite enlevé, hein, sans connaître la mort. Mais Dieu vient démontrer ce qui manque à sa foi, à savoir la connaissance de la gloire de Dieu en grâce. Je suis un Dieu qui fait grâce et qui me révèle. Leçon précieuse, apprise dans le déploiement des soins et le secours qui ont préservé Élie de mourir, hein, dans ce désert. Mais une leçon aussi solennelle puisque ça l'a amené au dépouillement de lui-même. Alors il n'a plus besoin de dire qu'il est tout seul, hein. Il se rend compte qu'il ne l'est pas, et que sa place est dans les rangs de ces mêmes fidèles, des fidèles sans éclat, inconnus, on ne sait pas leur nom, des gens que Dieu s'est réservés, on en saura quelques-uns dans la suite de l'histoire. Et cependant la même grâce revêt Élie d'une dignité telle qu'il peut oindre des rois et des prophètes, vous voyez, c'est quand même formidable.
Dieu montre à Élie en fait ce que nous devons tous apprendre, qu'il est malgré les apparences et malgré les déploiements de puissance, un serviteur inutile. Nous sommes des serviteurs inutiles, mais au service d'un Dieu tout-puissant. Voilà qui met fin dans nos vies à toute prétention, à toute idée de mérite personnel. Toute vanterie est exclue. Et aussi toute dépression quelque part, hein, parce que s'il y a un échec, ben, ça ne dépend pas non plus que de nous. Nous sommes des objets de grâce entre d'autres élus. Voilà la leçon dont nous devons faire profit. Alors ce chemin de la foi, évidemment, est difficile. On voit bien qu'il est difficile à l'homme de se tenir à la hauteur de la bonté de Dieu et que nous sommes bien plus promptes à juger, à dénigrer, à médire, que à aimer et à faire grâce. Nous pouvons à un moment donné de notre course regarder en arrière et constater la fidélité de Dieu et souvent ça nous fait du bien, ça nous remet en marche. Mais quand on est en train de marcher et pour l'avenir, on est obligé d'aller de l'avant. Et le jour présent cache celui qui n'est pas encore. Et c'est ça, en fait, le chemin de la foi. Hein. On ne sait pas ce qu'il y aura demain. C'est plus facile de regarder en arrière et de dire « Ah tiens, Dieu était là, là et là. » De loin, on voit bien que Dieu est là. Mais poursuivre le chemin et voir que Dieu est là en même temps à côté de nous, c'est autre chose, hein. C'est difficile. Le chemin de la foi est toujours difficile. Et il l'est d'autant plus qu'on est placé plus en vue. Parce qu'il faut supporter alors... En plus de l'opposition du monde, le manque de foi chez les enfants de Dieu. Et ça, c'est encore plus difficile. Alors, c'est le problème des serviteurs de Dieu en général, hein, dans la parole, mais aussi dans la vie. La faiblesse de la foi chez les autres enlève le courage à celui qui est en avant. Ça aussi, c'est important de le prendre en compte. Hein. Pourquoi régulièrement on prie pour... Les pasteurs, les missionnaires, les évangélistes, parce qu'ils sont en avant et qui souffrent parfois du manque de foi dans le peuple de Dieu. Ça les ralentit. Comme c'est le cas pour chacun de nous, hein, dans un même groupe de prière, si on en a deux ou trois qui sont ralentis, eh bien on va avoir du mal à marcher. Voilà ce qui arrive à Élie à ce moment de son histoire. Hein. Il a vu d'une manière remarquable la réponse de Dieu à sa foi, parce qu'il avait prié durant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Il avait ensuite défait par la foi les sacrificateurs de Baal. Un témoignage saisissant avait été rendu à la puissance de Dieu et au fait que cette puissance était avec Élie. Et on aurait pu dire, voilà Élie bien fortifié, l'Éternel s'est déclaré pour lui. Mais on constate que c'est l'inverse qui a lieu. Parce que l'effet d'une victoire remportée par la foi, c'est de nous placer en présence de l'irritation et des efforts de Satan. Satan n'aime pas qu'on remporte des victoires. Donc en général, juste après la victoire, il va se déchaîner. Et si l'on compte sur Dieu et non sur la victoire qui vient d'y avoir lieu, on va vers une nouvelle victoire. Mais la plupart du temps, on compte sur nous dans ces moments-là. On se dit, bon, on se relâche quoi. C'est bon, on vient de remporter une victoire, hein, on souffle, et ben paf, c'est là qu'on tombe. Toutes les fois que Satan suscite une nouvelle attaque contre le peuple de Dieu, en fait, il faudrait y voir l'occasion d'une nouvelle victoire. Mais ce qui nous prive souvent de la victoire, c'est justement parce qu'on en a remporté une. On s'élève un peu et puis, du coup, on est battu. C'est ce qui est arrivé à Élie. Il y a là une leçon profonde pour nous, afin que nous apprenions à nous tenir dans le chemin de la foi près de Dieu. Toujours près de Dieu. Et avec le sentiment profond de notre faiblesse. Si ça marche, c'est pas grâce à nous. Et si ça échoue non plus, c'est pas à cause de nous. Satan est toujours là pour nous tenter et plus les circonstances sont importantes et plus nous nous trouvons en présence des ennemis. Mais si je peux compter sur Dieu, je reste dans la tranquillité. Même si les circonstances sont au-dessus de notre portée et qu'il n'y a pas chez nous la proximité de Dieu, alors là, nous nous aigrissons contre ceux qui nous font du mal. Et on se laisse aller à cet esprit « je voudrais mourir ». Et on sent là un désir d'éviter le combat de la foi. Or, pour dire comme Paul « mourir m'est un gain », il faut aussi pouvoir dire « pour moi vivre c'est Christ ». Hein, celui qui jouit de Christ dans le ciel, c'est aussi celui qui s'appuie sur Christ sur la terre. Voilà, cette histoire nous rappelle qu'il y a une position où Dieu nous place et où nous devons rester. Chacun a la sienne, hein. Il n'est pas question de prendre la position de l'autre. Mais si Paul avait cessé d'être un apôtre, il n'aurait été qu'un homme dont la vocation était manquée. Et hors de notre position, eh bien, nous ne sommes rien. Ni pour nous-mêmes, ni pour les autres. Nous avons tous une position à tenir dans le royaume de Dieu. Une position que nous n'avons pas décidée et dans laquelle nous nous mettons nous-mêmes. Hein. Une position dans laquelle Dieu nous place en fonction des dons qu'il distribue. Et ce n'est pas nous qui la décidons. Par Élie, Dieu s'était ménagé un témoignage remarquable au sein du mal. Témoignage unique, mais qui dépendait entièrement de Dieu. Et que Dieu sanctionnait par des miracles qui l'accompagnaient. Et quand Élie oublie sa position et sa mission et qu'il se retourne contre Israël, c'est là qu'il tombe. Ce n'est plus là la puissance de la foi. La foi, au contraire, présente au peuple les ressources qui sont en Dieu et non pas présente à Dieu les problèmes du peuple. Enfin, si, les problèmes, oui, mais pas la plainte, quoi. Pas se plaindre du peuple. Alors voilà cette dernière exhortation, hein. Prenons garde à ne pas parler mal du peuple de Dieu, pas plus que de nos frères et sœurs dans la foi. Attention aussi aux critiques faciles vis-à-vis de l'assemblée dans laquelle Dieu nous a placés. Il n'y a pas d'assemblée parfaite, évidemment, et Dieu n'agrée pas de tels comportements quand nous parlons mal des autres. Dans la présence de Dieu, nous apprenons à aimer comme lui nous aime. C'est l'Éternel qui juge et c'est aussi lui qui fait grâce à qui il veut, même si ça ne nous convient pas. Ça aussi, nous ne devons pas l'oublier. Et quand on dit « je n'en peux plus », c'est quelque part qu'on a perdu de vue cette plénitude de la grâce et de la bonté de Dieu. Dieu ne peut-il plus ? Heureusement, Dieu reste qui il est. Sa grâce ne manque jamais. Et il faut rester assez près de lui pour traverser les circonstances avec cette assurance de « ma grâce te suffit ». Les victoires passées ne suffisent pas du tout. Mais le sentiment de la faiblesse qui s'appuie sur Dieu et sur sa grâce entière, ça, ça suffit. Sinon, Satan peut nous renverser dès que nous sortons de la dépendance du Seigneur. Alors que Dieu, mes chers amis, nous trouve dans la conscience de sa victoire et de cette paix qui est la sienne, une paix qui surpasse toute intelligence, qu'il nous mette aussi à couvert dans sa loge, hein, comme le dit un texte des psaumes. Ce n'est pas à Horeb, ce n'est pas dans la loi que l'on trouve ça. Notre affaire, c'est de voir Dieu par la foi dans les difficultés. Qu'il nous garde dans le sentiment de sa puissance et de sa bonté, et surtout à la hauteur de sa grâce et de son amour pour les uns et les autres. Amen.